France Culture, il est 16h. Tout de suite, Révolution médicale, René Friedman.
Révolution médicale, une émission de René Friedman. En partenariat avec le quotidien du médecin. Et aujourd'hui, nous allons parler de tous les phénomènes de dentition, de denture, de tout ce qui tourne autour de la bouche, en un mot, avec
Philippe Bouchard
et
Catherine Chaussin.
Voilà, nous sommes avec deux professeurs et nous allons aborder des choses extrêmement intéressantes qui sont d'une part quotidiennes pour les uns et pour les autres, mais aussi les phénomènes de recherche autour de la constitution des dents, du maintien des dents en bonne santé et des gencives et de tout ce qu'il y a dans la bouche, parce que il y a une bouche mais il y a beaucoup beaucoup d'éléments dedans et on va voir qu'il y a différents spécialistes qui s'occupent de ça. Au point que on s'y perd un petit peu entre les odontologues, les dentistes, les chirurgiens dentistes, les stomatologistes, les paradontologistes. Alors, est-ce que vous avez une petite éclaircissement pour nos auditeurs? Catherine Chaussin.
Nous sommes tous odontologistes diplômés de docteur en chirurgie dentaire. Donc, il n'existe pas de dentiste et de chirurgien dentiste. En gros, on parle de chirurgien dentiste.
C'est tout notre le monde, titre. Tous les dentistes sont chirurgiens dentistes.
Exactement.
C'est ça, déjà.
Exactement.
Ok. Alors, ensuite, il y a des tendances à mieux s'occuper de ce qui soutient la dent, de ce qui est la dent elle-même. On va le voir en détail. Il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est un domaine absolument passionnant. Professeur Catherine Chaussin, vous êtes professeur d'une part en odontologie, donc à Paris Descartes, et vous travaillez à l'hôpital Bretonneau, mais vous êtes aussi au laboratoire de recherche Imagine et Biothérapie, pathologie orofaciale, tout ce qui peut, je dirais, on va le voir, venir dans les années qui viennent. Et ça, c'est la faculté de chirurgie dentaire à Montrouge, c'est bien ça?
Exactement.
Le professeur Philippe Bouchard, vous êtes aussi à l'UFR, c'est-à-dire à la faculté d'odontologie Paris Diderot. Vous travaillez à l'hôpital Rothschild et vous êtes aussi dans cette unité de recherche qui, on va le voir d'ailleurs au fil de l'émission, a beaucoup de secteurs où ils ont progressé et fait comprendre un peu. Alors, peut-être pour nos auditeurs, déjà, le béaba. Qui est-ce qui veut décrire ce que c'est que la dent, l'émail, la dentine, la gencive, etc. Déjà, de quoi parle-t-on?
Moi, ce que je propose, c'est que Catherine Chaussin attaque sur ce que c'est que la dent, parce que c'est son domaine, et moi, je ferai tout sauf la dent.
Allez-y.
Alors, la dent est un petit organe situé dans la bouche qui est recouvert par l'émail, qui est une structure que l'on peut apparenter à du caillou. C'est la structure la plus solide de l'organisme, la plus minéralisée et la plus dure de l'organisme. Et toute la vie, en fait, ces petits organes qui ont différentes fonctions servent principalement à lacérer, à mastiquer et à préparer en fait le bol alimentaire. Donc ça sert vraiment principalement à se nourrir.
Quand on ouvre la bouche, on voit justement l'émail, on voit la couronne, ce qu'on appelle. Hein. Mais il y a une partie qui est cachée. D'abord, qui est à l'intérieur, il y a la dentine.
Alors, la dentine, c'est l'intérieur de la dent, donc qui est sous l'émail, et puis également qui constitue la plus grande partie de la racine. Et en fait, cette racine dentaire permet l'ancrage de la dent dans le parodonte. Et c'est là où se passent tous les problèmes. Au niveau de l'émail, on a plus un problème de carie dentaire chez l'enfant. Et puis, au niveau de cette racine, se passe chez le sujet vieillissant potentiellement des caries, mais aussi des phénomènes de résorption qui peuvent aboutir à la perte des dents.
Alors, à l'intérieur, c'est vivant, en fait, une dent. On a la pulpe.
Alors, il y a un tissu merveilleux qui s'appelle la pulpe dentaire, qui est une sorte de moelle, en fait, osseuse de la dent, qui permet non seulement de la nourrir, de l'innerver, de la vasculariser, et qui contient aussi un merveilleux réservoir de cellules souches d'origine mésenchymateuse, qui est aujourd'hui à l'origine de beaucoup de recherches dans les bons laboratoires à travers le monde.
Voilà, exactement. C'est ça qui est vraiment passionnant dans votre domaine. Aujourd'hui, c'est vraiment le développement des cellules souches de la pulpe, peut-être l'avenir de beaucoup de traitements, en tous les cas, des maladies de la dentition en général. Le ligament aussi qui attache la dent et qui, des fois, est rogné et est un peu fragilisé.
Alors, je crois que ce ligament permet de non seulement d'accrocher la dent, mais surtout d'amortir un petit peu tous les chocs, que ce soit lié à la mastication ou quand il ne faut pas le faire. On ouvre une canette avec ses dents ou quand on mord sur son stylo. Ça, ce n'est pas bien, il ne faut pas le faire. Mais ce ligament permet d'aboutir d'amortir les chocs. Il est aussi une réservoir non négligeable de cellules souches mésenchymateuses qui peuvent devenir de l'os ou devenir du cément qui est le tissu d'ancrage de la dent.
Donc vraiment un aspect très, très vivant et surtout très en accord avec les grands thèmes de recherche aujourd'hui hein, qui sont le développement, l'embryogenèse et même le développement donc, de ces tissus qui se renouvellent, on va dire, modérément puisque finalement il y a les dents de lait qu'on perd puis les autres qui normalement arrivent. Mais on voit bien que ça n'a pas toujours été comme ça, enfin dans les espèces. Hein, je veux dire qu'il y a des espèces qui ont des renouvellements permanents, ou quasiment. Par exemple le crocodile, qui remplace ses dents plus de 40 fois. Ou bien les requins, plus de 100 fois, donc acérés et tout ça. Donc voilà, on a qui renouvellent, puis d'autres qui n'ont pas de dents. Je ne parle pas des sans-dents, dont ça a été assez popularisé, on va dire, par une intervention il y a peu de temps. Mais je parle des animaux qui n'ont pas de dents, comme les fourmiliers, les paresseux, les tatous.
Enfin, voilà, y a des... Et les oiseaux, les poules.
Alors, les poules, question. Le petit poussin, il a une dent. La dent de l'œuf, ça existe ou c'est rien?
Non, les oiseaux n'ont pas de dents et les poules n'ont pas de dents. Mais un certain nombre de chercheurs aujourd'hui arrivent à faire pousser des poules aux dents.
Voilà. Alors la fameuse question quand les poules ont des dents, c'est pas complètement à côté de la plaque parce que finalement l'équipement de la dentition des poules est peut-être là.
Alors, elles ont perdu certains gènes. Certains gènes ne s'expriment pas, mais si on arrive à injecter les bonnes cellules au bon endroit, au bon moment, finalement, on peut arriver à retrouver des petits odontomes dans la cavité buccale de nos petits poulets.
Mais alors, il y a eu des grands oiseaux du temps des dinosaures, là, l'archéoptérix, qui lui avait des dents.
Ah ouais, exactement.
Voilà. Donc, il y a quand même des va-et-vient hein, dans la dentition. Mais c'est pas une blague. Hein. Je pensais qu'il y avait à un moment donné, on parlait que le poussin, pour sortir de sa coquille, avait une dent et la perdait ensuite. C'est encore une mythologie.
Non, je crois que c'est le bec.
Alors voilà. Alors les becs, justement, parce qu'il y a aussi il y a des grandes dents, comme on dit, qui se voient chez le narval, chez l'éléphant, chez le serpent avec ses dents accrochées. Enfin, il y a quand même beaucoup de variétés. Vous êtes sur un sujet qui est pas inintéressant dans le domaine de la représentation de la mythologie. Etc. Les dents, vous en avez parlé pour que l'on se situe cette complexité, Catherine Chaussin, mais la dent s'implante dans un soutien qui est la gencive. Et c'est là que Philippe Bouchard intervient, puisque c'est son domaine.
Voilà, en fait, la dent ne s'implante pas dans la gencive, la dent s'implante dans l'os à travers son ligament dont on a parlé tout à l'heure, l'os de la mâchoire. Et puis le tout est recouvert par la gencive. Et la surface, Catherine Chaussin n'en a pas parlé tout à l'heure, mais la surface de la racine est recouverte d'un tissu minéralisé qui s'appelle le cément, et qui, dans lequel s'insère ce ligament. Alors, le cément, le ligament, l'os et la gencive, ça s'appelle le parodonte. Alors c'est pour ça que je disais tout à l'heure, en passant la parole à Catherine Chaussin, en disant je m'occuperai de tout sauf la dent. Le parodonte, c'est tout sauf la dent à l'intérieur de la bouche.
Et on va le voir tout à l'heure, ça a un champ très large, hein, beaucoup plus large, parce qu'il y a des maladies qui retentissent, ou plutôt les infections qui retentissent sur des maladies. Enfin, il y a tout un lien qui est... Mais avant qu'on aborde ces questions, deux problèmes dans la dentition, on va dire... D'abord, on a les problèmes d'accès au traitement. Abordons tout de suite cette question parce qu'elle est quand même dans la préoccupation de beaucoup de gens. C'est pas simple de se faire soigner les dents, ça coûte cher. Et je dirais le système de prise en charge, même s'il y a des évolutions, et si notre pays doit être aussi recentré par rapport à ce qui se passe dans le monde, où c'est encore pire. Mais quand même, il y a eu beaucoup de discussions sur ce thème-là, c'est-à-dire l'accès aux soins dentaires, compliqué parce que le prix d'une intervention un tout petit peu sophistiquée atteint très vite 1000, 2000, 8000 euros. Enfin bon, voilà. Qu'est-ce que nous en disent les professeurs de ce premier point? Je vous poserai ensuite la question sur le deuxième point, la fameuse crainte de la douleur quand on va vous voir les uns les autres. Hein, je dirais que, comment ça a pu évoluer là-dessus.
Très bien. Donc je réponds sur l'argent et Catherine Chaussin répondra sur la douleur, si elle veut bien. Donc pour l'argent, je suis complètement d'accord avec vous. De toute façon, c'est récurrent à chaque fois que j'ai eu l'occasion de faire une émission de télévision, de radio, etc. Le problème de l'argent se pose. Je crois qu'il y a d'abord, il faut dire aux gens que pour se faire soigner, on peut aller à l'hôpital. Il y a plusieurs services de la PHP, par exemple à Paris, qui reçoivent les patients pour...
Vous travaillez à l'hôpital, d'ailleurs.
Oui, tous les deux.
Mais est-ce que c'est pas 6 mois d'attente, 1 an d'attente?
Alors, c'est beaucoup d'attente. C'est beaucoup d'attentes, en particulier pour les enfants, mais c'est beaucoup d'attentes. Et puis il y a un deuxième problème, mais en tous les cas il y a cette possibilité là. Ouais. Il y a un deuxième problème, c'est que, à ma connaissance, j'ai plutôt le sentiment que l'évolution de la chirurgie dentaire, elle allait trop vite.
C'est-à-dire?
Ça veut dire que les techniques qui sont proposées aujourd'hui sont hyper sophistiquées.
Vous voulez dire qu'elles ne sont pas toutes utiles? On va voir tout à l'heure les lasers.
Oui, on en parlera. On en parlera.
Qui ont un coût aussi une efficacité pour l'interrogation.
Il y a des choses utiles et il y a des choses... J'ai du mal à dire inutiles, mais enfin, en tous les cas, non approuvées par la littérature.
Scientifique.
Mais ce qui est... quand je dis que c'est allé trop vite, je vais prendre l'exemple très simple, c'est celui des implants. Les implants, aujourd'hui, c'est une technique qui...
Alors, qu'est-ce que c'est que les implants?
Alors, les implants, ce sont des petites vis en titane que l'on place à l'intérieur du maxillaire. Ce sont des racines artificielles que le dentiste pose chirurgicalement à l'intérieur de là où il y a
la dent. Il va visser, là, sur...
Voilà. Et à l'intérieur, il y a un pas de vis et on va visser la dent dessus. Si on fait ça, voilà, c'est exactement ça.
Comprenne.
Donc il y a une phase chirurgicale où on va poser l'implant et une phase prothétique où on va réaliser la prothèse. Alors ça, c'est incontournable aujourd'hui dans un pays développé. Et en particulier, il faudrait, là moi je suis un furieux militant pour ça, il faudrait que les patients qui sont âgés, qui n'ont plus de dents, qui sont édentés totaux, et au moins la prise en charge de 2 implants de chaque côté pour maintenir la prothèse en place. Ça, c'est quelque chose, le béaba, mais ça coûte très cher. Au niveau, enfin, je ne suis pas un économiste de santé, mais il est clair que si on devait prendre en charge la totalité des coûts associés à tous les patients qui demandent ce type de traitement, parce que c'est ce qu'ils demandent tous, c'est cher. Comme je savais que la question allait être posée, à l'hôpital Rothschild, je peux vous dire combien ça coûte. Et donc ça me paraît intéressant. Un implant unitaire, c'est-à-dire un seul implant, la partie chirurgicale coûte entre 700 et 1100 euros. La partie prothétique coûte entre 900 et 1300 euros. Ce qui veut dire en clair qu'un implant tout compris à l'hôpital coûte entre 1600 et 2400 euros, ce qui va tout à fait dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure. Tout le monde ne peut pas accéder à ce type de prêt.
Il y a quand même des systèmes de remboursement ou d'aide?
Non, il n'y a pas de remboursement. Il y a des complémentaires qui aident, mais il y a très très peu de remboursement sur ce type de technique.
Alors, nos politiques sont intervenus là-dessus pour essayer. Même Macron était intervenu pour qu'il y ait des devis qui soient avec le coût de revient, le prix des prothésistes. Enfin voilà, il y a une volonté de transparence d'une part, mais on résout pas complètement le problème. Transparence des prix, lieu de fabrication aussi. Déjà Bernard Kouchner en 98 avait demandé que on sache où sont fabriquées les fameuses prothèses.
Je crois qu'il y a 20% des prothèses qui sont fabriquées actuellement à l'étranger.
Alors il y a d'ailleurs dans ce domaine, on va pas passer parce qu'on va centrer sur la recherche, mais c'est vrai que c'est quand même un tel problème qu'on pouvait pas l'éviter, avec aussi le tourisme, parce qu'il y a du tourisme médical qui se fait dans les pays de l'Est en particulier, ou du low cost qui est proposé ici ou là. Donc on va pas le résoudre là, mais voilà, avec ces ces images, on va dire, du passé, du Pont-Neuf, où il y avait les arracheurs de dents, les charlatans, enfin tout ça. Il y a aussi une mauvaise image, quoi, qui colle, ce qui est dommage, parce que votre métier est formidable, et moi, en préparant cette émission...
Est-ce que je peux faire juste une remarque à propos de la mauvaise image?
Au contraire.
Parce que quand on interroge, d'une manière générale, quand on interroge les gens sur la profession de chirurgien dentiste, oui, c'est vrai que c'est pas à cause de ce problème d'argent, c'est pas formidable. Mais quand on leur quand on les interroge sur leur chirurgien dentiste, généralement ils répondent il est formidable.
Alors, bien sûr, mais il y en a des formidables, et même, on va dire, la grande majorité, soyons clairs. Et puis, de toute façon, c'est le système aussi, c'est pas forcément les individus, c'est le système parce qu'il y a un coût, et s'il n'y a pas de prise en charge, ça a été comme ça avec les lunettes, enfin bon, on connaît qu'il y a certains secteurs de la santé qui posent un certain nombre de problèmes. Alors, j'en viens à la douleur, avec vous, Catherine Chaussin, donc, parce que cette douleur, donc, je parlais des arracheurs de dents, quoi, c'est ça, on a l'image du jean et de des arracheurs dedans. Mais enfin, il y a même un qui s'est suicidé, Wells, là, qui s'est suicidé parce qu'il avait trouvé, soi-disant, le gaz hilarant. Et il a fait une démonstration devant tout le monde et ça a raté. Et donc, il s'en est suicidé. Puis après, on a découvert la cocaïne. Puis en 1905, arrive enfin même le pas important qui est l'anesthésie locale. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur... cette crainte de la douleur de la fraise qui va faire horriblement mal, etc.
Alors, la peur du dentiste est ancestrale. Il y a deux choses. D'une part, aujourd'hui, un chirurgien dentiste travaille systématiquement sous anesthésie locale, ce qui limite vraiment considérablement la douleur. Et d'autre part, il ne faut pas attendre avant d'aller chez le dentiste. Parce qu'effectivement, si on attend d'avoir très mal, ce qu'on appelle la pulpite aiguë, on parlait tout à l'heure de la pulpe dentaire, et cette pulpe dentaire est bourrée de fibres nerveuses sensitives sans myéline et qui sont absolument ravies une fois qu'elles sont excitées de provoquer des douleurs qui sont dignes d'un accouchement, je crois, sans péridurale. Donc si on attend effectivement jusqu'au bout de la douleur parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a mal, parce qu'on a peur, eh ben effectivement, c'est plus difficile à anesthésier. Alors que si on va régulièrement chez son chirurgien dentiste, et tout à l'heure vous parliez du problème d'accès aux soins, le problème d'accès aux soins, il se pose aussi du fait du numerus clausus qui est restreint, et dans certaines régions, il n'y a pas de chirurgien dentiste, ou il y en a très peu. Donc effectivement, le temps d'attente des rendez-vous est important. Donc je pense que ce qui est important, c'est de trouver une solution pour aller une fois par an depuis la petite enfance chez le dentiste. Et là, on prévient les problèmes et finalement, mieux vaut prévenir que d'arriver avec une pulpe hyper inflammée qui là, pour le coup, va être extrêmement difficile à anesthésier.
Catherine Chaussin, vous évoquiez tout à l'heure, avant qu'on débute, le fait que d'avoir des troubles au niveau dentaire avait des conséquences très néfastes sur la santé en général.
Bien sûr.
Si vous pouviez en dire un mot.
Nous avons travaillé à Bretonneau sur une population d'obèses morbides du service du professeur Badevant puis Hopper. Et nous avons montré que des personnes avec une obésité morbide candidat à une chirurgie bariatrique, finalement, s'ils avaient, après la chirurgie bariatrique, une bonne capacité masticatoire, il maigrissait bien davantage que les personnes qui n'avaient pas une bonne capacité masticatoire. Donc c'est vraiment important d'accompagner chez tout type de patient, que ce soit les maladies infectieuses ou les maladies chroniques. Un bon état bucco-dentaire finalement est le garant du rétablissement d'une bonne santé.
À condition aussi de ne pas manger trop vite et de bien mastiquer, donc c'est ce que vous voulez dire.
Alors on fait poser la fourchette entre chaque bouchée exactement chez ces malades. Mais vous avez des patients souvent qui n'ont pas de dents ou qui n'ont pas suffisamment de couple masticatoire pour pouvoir correctement former un bol alimentaire. Donc c'est important chez ces patients de les appareiller avec des appareils de bonne qualité et qui permettent de restaurer la fonction. Et l'esthétique.
Alors l'esthétique, on y viendra tout à l'heure, dans notre émission, on va aborder dans un instant les maladies parodontales, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas la dent, justement, mais qui est quand même très lié.
France Culture, Révolution Médicale, René Friedman.
Donc, Philippe Bouchard, parlez-nous un peu des maladies parodontales.
Alors, les maladies parodontales, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelait avant dans la piorée, c'est-à-dire que c'est l'os qui soutient les dents, qui s'en va. Et quand la dent n'est plus soutenue par l'os, elle tombe. Voilà. Donc, c'est ça les maladies parodontales. Alors maintenant, si on essaye d'être un peu plus sophistiqué dans la description, la bouche, c'est 700 bactéries environ. Parmi ces bactéries, il y en a certaines qui sont... mauvaises, en particulier ce qu'on appelle les grammes négatives anaérobies, qui viennent se loger entre la gencive et la dent, et qui, lorsqu'elles stagnent pendant un certain temps, vont d'abord créer une gingivite, c'est-à-dire une inflammation de la gencive, et puis dans un second temps, si chez les patients susceptibles, vont entraîner une résorption de l'os qui soutient la dent, et qu'on appelle une parodontite. Voilà. Donc en gros, c'est ça les maladies parodontales.
Et qu'est-ce que ça touche comme population ?
À tout le monde. À tout le monde, y compris dans certaines formes de maladies parodontales, les enfants. Donc il y a en gros deux types de parodontites. Les parodontites dites agressives qui touchent essentiellement les individus avant 30-35 ans. Et puis les parodontites chroniques qui touchent les individus adultes à partir de 35 ans. Mais ça touche tout le monde.
Oui, parce que j'avais vu que 50%, enfin dans une étude, entre 35 et 64 ans, avaient des troubles à ce niveau-là.
Tout à fait. La prévalence, par exemple aux États-Unis, la prévalence... Je dis aux États-Unis parce qu'en France, on n'a pas de données récentes. Mais les données les plus récentes, c'est aux États-Unis. On a 47%, une prévalence de 47% de parodontite. Ce qui est colossal. Alors on peut se poser la question d'ailleurs de savoir pourquoi dans un pays comme les États-Unis, qui est un pays parmi les plus développés au monde, alors qu'on sait très bien traiter les parodontites, d'une façon assez simple d'ailleurs, sans chirurgie, simplement avec des techniques dont on pourra éventuellement parler.
Ouais, on va y venir.
Oui, mais on peut se poser la question de savoir pourquoi il y a une telle prévalence. Et là, on rejoint la question que vous posiez tout à l'heure. Peut-être que c'est parce qu'il y a un problème d'accès aux soins.
Et donc, vous parliez du traitement, Philippe Bouchard, de ces infections. On terminera tout à l'heure par la prévention, bien entendu, hein, qui reste quand même à l'ordre du jour. Mais là, on va parler du traitement. Vous dites on peut traiter sans opérer ? Ou est-ce qu'il faut envisager parfois un nettoyage mécanique, parfois une chirurgie ouverte ? Quelle est votre pratique ?
Alors, j'ai pas une pratique particulière, c'est la pratique de tout le monde. Ça veut dire que les parodontites se traitent toujours, les maladies parodontales se traitent toujours de la même façon. Il y a une phase un round d'observation qui est généralement 3 séances, peut-être 4 séances, peut se faire en 2 aussi, mais enfin c'est assez long, où on va nettoyer entre la gencive et la dent, non chirurgicalement, à l'aide d'instruments ultrasoniques, par exemple. Donc ça, c'est un super détartrage, on va appeler ça comme ça, un détartrage en profondeur, très méticuleux, qui dure 2 à 3 séances. À la suite de quoi, on fait ce qu'on appelle une réévaluation, c'est-à-dire qu'on regarde par rapport aux données qu'on a prises au départ, ce qu'on a gagné. Généralement, on n'a pas perdu. Et en fonction de ça, ça fonctionne comme un algorithme. Ça veut dire que si ça va bien, rentrez chez vous et on vous verra tous les 6 mois, tous les 3 mois, tous les ans, en fonction de la gravité de votre maladie. Si ça va pas bien, là ou bien on réinterviendra non chirurgicalement, de la même façon qu'on l'a fait parce qu'on était, c'était insuffisant, ou bien on décidera d'intervenir chirurgicalement. Intervenir chirurgicalement, ça veut simplement dire on va lever la gencive pour accéder directement aux lésions et pour les nettoyer parfaitement. Après, on peut mettre tout un tas de, je dirais, si j'emploie le terme de poudre de perlimpinpin, c'est pas très adapté, mais en tous les cas, n'importe quel matériau ou substance pour améliorer la cicatrisation. Mais c'est pas l'objet. J'insiste ouais. beaucoup là-dessus parce que souvent les gens viennent en disant je veux une greffe, je veux. C'est pas l'objet. Déjà, la première chose à faire, c'est de désinfecter la bouche du patient.
Si on a, comme vous l'évoquiez, cette atteinte du parodonte chronique, est-ce que ça veut dire que les gens sont sous antibiotiques de façon chronique?
Ah non, jamais. Non, surtout pas. Surtout pas. Le seul cas, il y a 2 cas où on peut utiliser les antibiotiques en parodontologie. Le premier cas, c'est pour les parodontites agressives qui sont vraiment, vraiment, qui créent une grosse infection. Donc là, on peut utiliser les antibiotiques. Et dans le cas exceptionnel, mais je dis bien exceptionnel, d'échec au traitement classique des parodontites chroniques. Là, on peut éventuellement utiliser les antibiotiques, sinon il n'y a aucune raison d'utiliser. Le traitement est mécanique. Il faut vraiment éliminer mécaniquement la plaque.
Pas d'automédication avant d'avoir consulté et de savoir ce qu'il faut faire. Automédication antibiotique. Hein,
c'est vrai pour tout, même dans votre
absolument. Équipe. On l'a dit plusieurs fois d'ailleurs sur France Culture. On va se tourner maintenant vers un autre aspect de votre spécialité, avec Catherine Chaussin, je suppose, c'est-à-dire le côté plus esthétique, enfin pas esthétique, c'est plutôt le problème de l'adolescent. Aujourd'hui, on est quand même frappé par voir, il n'y a pas un adolescent qui n'a pas le sourire émaillé de petites constellations de fils de fer, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe avec toutes ces bagues, ces élastiques, ces braquettes et tout ça? Qu'est-ce que c'est? On pousse à la consommation? Ou vraiment, il y a quelque chose?
C'est culturel. Aujourd'hui, le fait d'avoir des dents blanches, bien alignées, qui permettent de bien mastiquer, c'est un critère d'esthétique important et qui est aussi garant de la future réussite du rejeton. Donc, quelque part, avoir des dents tordues qui se chevauchent constitue une sorte de frein pour le futur de cet adolescent.
Non, mais ma question, c'est plutôt, est-ce qu'il y a tellement de dents tordues? Parce que bien sûr qu'il y a des dents tordues. Oui, il faut faire quelque chose.
Il y a tellement de dents tordues. Il y a tellement de dents tordues.
Et vous avez l'impression qu'il y en a plus qu'avant, Philippe Bouchard?
Non, mais il faut comprendre, c'est l'évolution. Le petit homme vert avec les toutes petites mâchoires et le grand crâne, c'est comme ça qu'on va devenir dans les années à venir. Pourquoi? Parce que avec l'évolution, on perd de cet étage inférieur de la face qui devient de plus en plus étroit. Les dents, elles, ont un retard par rapport à ça. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de dents incluses, par exemple. Mmh. Dents de sagesse incluses, incisives latérales incluses, parce qu'il y a une réduction des maxillaires. Donc, je crois que c'est cette évolution normale qui ferait que, sur ces mâchoires, les dents finissent par se chevaucher. Et comme dit Catherine Chaussin, c'est pas simplement un problème esthétique, c'est aussi un problème fonctionnel. Ça veut dire que ces gens qui, à l'adolescence, ou ces adolescents qui ne sont pas traités, n'ont jamais la sanction tout de suite. La sanction arrive à 50 ans, 60 ans. Et moi, je le vois avec les maladies parodontales, par l'accès au brossage, par exemple. Mmh. Si vous avez les dents dans tous les sens, vous nettoyez pas bien.
Et souvent, les enfants qui ont eu des infections sur leurs dents temporaires, sur leurs dents de lait, vont avoir des malpositions, puisqu'on est obligé d'enlever ces dents temporaires un peu plus précocement, au risque d'avoir des chevauchements et des malpositions. Donc, ces enfants ont encore plus besoin d'un traitement orthodontique.
Alors, c'est vrai que, du coup, on s'y habitue, ça devient presque...
C'est un phénomène de société.
C'est un phénomène de société, d'autant qu'il y a quelques célébrités, je dirais, qui à l'âge adulte ont fait la même chose. Je pense à Faye Dunaway, à Tom Cruise, qui ont comme ça démontré leur sourire aidé, je dirais. Et puis alors, il y a des phénomènes plus particuliers avec les rappeurs, les grizzles, là, ils se mettent des parois en argent ou en or, qui font que ça se voit, en tous les cas.
Alors, il y a quelque chose qui est important à savoir pour les auditeurs, c'est que ces traitements sont complètement pris en charge par la Sécurité sociale, à condition d'être encore un enfant, c'est-à-dire les choses doivent être enclenchées avant l'âge de 16 ans.
Alors, c'est très important ce que vous dites, effectivement, mais même les gouttières invisibles et transparentes, je croyais que ça coûtait quand même excessivement cher.
Chez l'enfant, les semestres, à partir du moment où la demande est faite, ça marche par semestre et c'est couvert par la Sécurité sociale. Et l'orthodontie est parfaitement... possible chez l'adulte, même si effectivement l'os se remanie moins vite, donc les dents vont moins vite bouger dans le parodonte, dans leur ancrage, mais c'est tout à fait possible. Par contre, ce sont des actes qui sont complètement hors nomenclature. Donc, ce ne sera pas remboursé.
Alors justement, puisqu'on parle de cet aspect-là, le blanchiment des dents, là, vous avez ouvert à l'hôpital de Bretonneau une séance d'éclaircissement dentaire.
Bien sûr, on le pratique, oui, bien sûr.
Donc c'est intéressant à savoir. C'est-à-dire qu'on peut se faire, je dirais...
Mais pas comme dans un bar à sourire.
C'est voilà, ce qu'on appelle les bars à sourire, exactement. Donc on est là dans une prise en charge
médicale.
Parce qu'on estime que c'est important. Et c'est bien de faire passer ce message, bien que la consultation va être envahie, va être noircie de monde pour l'éclaircissement des dents. Bon. Alors, l'eau oxygénée qui est utilisée à petite concentration est autorisée, mais pas à forte concentration.
Non, tous ces traitements blanchissants sont formidable, en particulier lorsque les dents ont été dévitalisées et qu'elles sont noircies. On a des patients qui arrivent avec une dent devant qui est noire, et ça, c'est vraiment un préjudice esthétique. Et c'est une dent qui, par ailleurs, n'a pas besoin d'être couronnée. Donc, effectivement, la meilleure solution est de pratiquer ce qu'on appelle un blanchiment interne. Aujourd'hui, on sait que non seulement les risques de résorption radiculaire sont quand même possibles, et donc il vaut mieux limiter la concentration, voire ne pas mettre d'eau oxygénée pour limiter ces risques de résorption interne radiculaire.
Est-ce que le bicarbonate est conseillé ?
Le bicarbonate est utilisé.
Et dites-moi, quelle fréquence pour se garder des dents blanches ?
Ah, vous parlez au niveau du blanchiment, ça, ouais. C'est à déterminer avec votre chirurgien dentiste, selon l'origine, en fait, soit c'est quelque chose qui est lié à des taches, et dans ce cas, un simple détartrage et polissage suffit largement, soit il y a vraiment un problème de pollution de la mélogénèse, qui donne des colorations qui sont extrêmement disgracieuses de l'émail, et dans ce cas, ça peut même aller jusqu'à la pose de facettes chez l'adulte, hein. C'est extrêmement variable, aujourd'hui on pose plus de facettes de couronne chez adulte. C'est extrêmement variable selon chaque patient et la situation clinique. Donc c'est pour ça que c'est important que ce soit déterminé avec un chirurgien dentiste qui connaisse réellement l'origine finalement de cette gêne esthétique.
Professeur Philippe Bouchard, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Le terme de blanchiment n'est pas adapté. C'est la traduction de l'anglais bleaching. Et en fait, il faudrait parler d'éclaircissement. Ça veut dire qu'en gros, un blanchiment, quand vous avez 50 ans, si vous avez un petit peu fumé avant, vos dents sont plus jaunes qu'elles étaient quand vous aviez 20 ans. Et un blanchiment, c'est un lifting des dents, quoi. Vous revenez un peu à votre teinte de départ.
Une petite pause musicale avant de reprendre les autres aspects de votre spécialité. Vous êtes sur France Culture, Révolution Médicale, une émission de René Friedman, en partenariat avec le quotidien du médecin. Et nous sommes réunis pour parler des maladies des dents et des tissus de soutien des dents avec le professeur Catherine Chaussin et le professeur Philippe Bouchard. Nous avons déjà traité un certain nombre de choses sur l'évolution, sur surtout les maladies parodontes, hein, c'est-à-dire tout ce qui va être l'os et puis la gencive. Et puis nous allons aborder maintenant un peu plus dans cette deuxième partie, d'abord quelques motif de consultation, on va dire, avant de terminer surtout sur les voies de recherche qui me semblent vraiment passionnantes. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on va consulter ? Comme on l'a dit, parce qu'on a mal, mais pourquoi est-ce qu'on a mal ? Parce qu'on a quand même, dans la majorité des cas, c'est une carie. Donc, qu'est-ce que c'est que la carie ? C'est une démélarisation de l'émail qui va attaquer donc la dentine. Et qu'est-ce que l'histoire des plaques dentaires et des tartres ? Alors, et du détartrage. Qu'est-ce que vous en dites, Catherine Chaussin ?
Alors, la carie dentaire est une maladie infectieuse.
Voilà.
Et qui dit infectieux dit transmissible. Ce qui veut dire qu'on ne fait pas ce qu'il faut faire. Parce que plutôt que d'aller... Ok, il faut faire des implants, ok, il faut faire des prothèses. Mais je pense qu'il faut commencer par traiter les mamans, les femmes enceintes et les petits-enfants, pour faire de la prévention chez les petits-enfants. Parce que finalement, si c'est une maladie infectieuse, il y a transmission. La transmission se fait à l'apparition des dents de lait. Et finalement, les bactéries de la bouche de la maman, qui a les bactéries parmi les 700 ou 1000 espèces différentes, les bactéries bien spécifiques qui vont donner les caries dentaires, la maman va les transmettre à son bébé. Comment ? Bah, en ramassant la tétine, en goûtant la cuillère. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est normal qu'une maman...
Ah si, il faut faire très attention, parce que nous, en plus, les obstétriciens, on est sur le cytomégalovirus, et tout un tas de choses qui peuvent, des virus qui se transmettent aussi par la salive. Donc attention à ce genre de geste plein d'amour, mais parfois voilà, plein de transmissions non voulues.
Donc ces caries dentaires, ces bactéries vont aller coloniser les fissures sur les molaires des petits-enfants, et puis l'enfant va développer des caries. Et finalement, il va être infecté, ses frères et sœurs vont être infectés, et au fur et à mesure, ses dents de lait vont être infectées, et ses dents permanentes vont être infectées. Donc il va avoir des caries pendant l'enfance, il va aller voir des dentistes. Les enfants n'aiment pas trop aller chez le dentiste pour traiter des caries, donc ils vont après développer une sorte de peur. Chez l'adulte, ils vont continuer à avoir des caries, puis ils vont perdre leurs dents et aller vers des édentements. Donc finalement, ce qu'il faut, c'est absolument faire de la prévention, non seulement chez le petit enfant, mais aussi chez la femme enceinte ou chez la future maman qui dessine un projet de grossesse.
Alors effectivement, c'est très important ce que vous dites, et je vous avais réservé quelques questions, parce que le rapport entre problème de dents et la grossesse n'est pas très bien connu, et en particulier dans notre profession, les gynéco-obstétriciens, je dois le dire. Et avant même la grossesse, il y a la relation entre infertilité et infection. Parce que un certain nombre d'études ont montré que, par exemple, les stérilités ou les infertilités, on va dire, les difficultés à concevoir masculines, ce qui était assez étonnant, c'est que, par exemple, j'ai un de mes collègues, au début, il demandait un panoramique dentaire. Alors, quelqu'un vient consulter pour avoir un bébé, on lui propose un panoramique dentaire. Donc c'était quand même un peu la surprise. Et on a compris, à juste titre, qu'effectivement, la source d'une infection latente pouvait disséminer et avoir des conséquences donc sur la production des gamètes pour l'infertilité. Donc c'est un point, déjà à ce niveau-là, ne pas passer à côté d'une cause, pas faire des choses super sophistiquées qu'on fait beaucoup aujourd'hui, sans revenir aux éléments de base qui sont une bonne hygiène, et en particulier donc celle des dents. Puis alors, sur la grossesse, effectivement, la relation entre des infections dentaires et puis les accouchements prématurés, par exemple, c'est quelque chose qui semble quand même bien solide. Et donc, il faut quand même faire le maximum, comme quand on a, en tous les cas, un point d'appel, pendant la grossesse, ne pas avoir peur en tous les cas d'aller chez le dentiste pendant la grossesse, parce que ce qui se passe, c'est que beaucoup de femmes enceintes, elles ont d'une part peur de est-ce que je peux avoir une anesthésie locale alors que je suis enceinte, donc la réponse elle est oui, n'est-ce pas, vous êtes d'accord pour l'anesthésie locale,
entre le troisième mois et le sixième mois, ça c'est une évidence, il n'y a pas de problème, avant non, après non.
Voilà. Pourquoi après non?
Après non, entre les il y a des études tout à fait récentes d'ailleurs qui viennent de sortir sur le fait qu'après 21 semaines, il est préférable de ne pas faire d'anesthésie.
Oui, mais si la maman a une infection et qu'elle souffre,
oui,
non, mais
enfin, on peut espérer.
Le fera, c'est toujours
possible. Il y avait un bouquin.
Je sens que le débat est lancé.
Non, il y avait un bouquin qui était pas mal. Je sais plus, c'était Françoise Dolto, je sais plus. Enfin, qui racontait. Enfin, c'est un vieux truc. J'ai une dent, j'ai un enfant, je perds une dent. Une dent par enfant.
Oui, effectivement.
Alors, c'est complètement idiot. Parce que les femmes qui perdent des dents pendant la grossesse, c'est simplement parce qu'au moment de la grossesse, effectivement, quand elles ont lu des livres pour... tous les livres que les femmes lisent avant la grossesse, elles vont chez le dentiste, parce qu'on leur dit faut aller chez le dentiste. Donc elles vont chez le dentiste, et là, tout d'un coup, on s'aperçoit que ça va pas forcément bien sur le plan dentaire.
Enfin, je vous reprends quand même, parce que nous, on a quand même beaucoup d'appels de femmes qui doivent se faire traiter, donc on n'est pas dans du dépistage ou des choses qui peuvent être repoussées. Il y a deux questions, mon dentiste veut me faire quelque chose avec une anesthésie locale, moi jusqu'à présent, j'ai toujours dit oui, mais je vous écoute. Et la deuxième, c'est est-ce que il veut faire une radio, est-ce que je me protège ou pas?
Alors, je reviens sur l'anesthésie, c'est clair, c'est entre le troisième et le sixième, où là, il y a zéro risque. Avant, après, c'est un peu plus compliqué. Pour les radios, bah, à partir du moment où on met un tablier de plomb, voilà. Je vois pas où est le problème.
Voilà. Hein. Ouais, j'ai le souvenir, quand je travaillais pour la mairie d'Orly, ou pour les hôpitaux à Créteil ou à Ivry-sur-Seine, j'ai vu énormément d'urgences avec des mamans très proches de l'accouchement qui présentaient des infections dentaires extrêmement sévères et qui souffraient énormément. Et on les soignait, bien sûr. Il n'est pas question de laisser des mamans, même au dernier trimestre, avec des infections dentaires. Par contre, aujourd'hui, les choses ont changé et une visite a été instaurée, je crois, au quatrième mois de grossesse. Et ça, c'est très important de le respecter.
Exactement. Elle est dans le carnet.
Voilà. Et c'est vraiment très important.
Est-ce que, avant qu'on quitte le sujet,
oui.
Vous parliez des accouchements prématurés.
Oui.
Bon, il y a eu quand même un certain nombre de travaux qui ont montré que, par exemple, être atteint d'une maladie parodontale, même sévère, et après avoir traité cette maladie, on réduisait pas forcément la prévalence des accouchements prématurés. Mais il semblerait que le lien avec la pré-éclampsie soit plus fort. Alors, je vais pas avoir l'outrecuidance de dire aux auditeurs ce qu'est la pré-éclampsie, mais vous pouvez peut-être intervenir.
Oui, oui, c'est une ischémie placentaire, c'est-à-dire c'est une insuffisance de circulation vers le fœtus qui aboutit à une hypertension et parfois donc à des complications encore plus graves. Effectivement, disons comme souvent en médecine, c'est tellement difficile d'avoir un modèle exact, tout ça. Il y a quand même, je dirais, des arguments pour penser que, en tous les cas, sur certaines formes d'infection, ça la peut favoriser. En tous les cas, même si ça favorise pas à tous les coups, c'est comme très souvent, ça peut favoriser donc et qu'on va rechercher dans les accouchements prématurés. Bien sûr, il y a tellement d'autres causes d'accouchements prématurés, mais enfin, si on est dans le domaine de l'infectiologie, il faut penser à cette zone qui peut être tout à fait responsable, quoi. Mais il y a aussi, effectivement, vous avez tout à fait raison, l'ischémie placentaire et donc la pré-éclampsie qui a été citée. Alors, vous voyez, donc, on est là dans les conséquences, d'ailleurs, sur les autres organes, hein, des infections des dents, hein, avec des maladies qui peuvent donc se révéler ou être favorisées par les infections des dents. Mais je voudrais, puisque le temps va passer assez vite, sur les éléments de recherche qui sont aujourd'hui dans votre domaine et particulièrement dans l'unité de recherche dans laquelle vous travaillez. Question, qu'est-ce qu'il en est d'abord des lasers, de toutes ces méthodes qui sont proposées pour avoir en trois dimensions, d'une part exactement les localisations ou le modélisation de la dent à remplacer, donc toutes ces nouvelles techniques, et puis en cas de nécessité, donc différents types de lasers, puisque selon qu'on s'adresse à un tissu dur ou un tissu mou, on va peut-être avoir des longueurs d'onde différentes.
Alors, il y a deux choses. D'une part, le laser qui permet de réaliser certains traitements. Récemment, des travaux que nous ne menons pas dans mon équipe, on ne travaille pas sur le laser dans mon équipe, des travaux ont montré que ça pouvait réveiller quelque part ce pool de cellules souches qui était contenu dans la pulpe dentaire et permettre une régénération. Et d'autre part, il y a ce qu'on appelle les scanners, les imageries 3D, effectivement, de la face, qu'on appelle les cone beam, et qui permettent d'avoir une imagerie extrêmement fine, non seulement des structures dentaires, de ce qu'on appelle la région périapicale, et puis également de tout ce qui est face. On regarde même les ORL sont également très intéressés par ces techniques, en particulier pour l'oreille. Donc c'est vraiment beaucoup de travaux et de progrès sont faits aujourd'hui sur l'imagerie crânio-faciale et dentaire qui permettent d'avoir des informations très fines et finalement quelque part de dépister des lésions, des infections, des maladies qu'avant on n'avait pas la sensibilité suffisante pour dépister.
Le point que je trouve assez remarquable, c'est les tentatives de chercheurs de créer une dent in vitro, la biodent, ou bien la greffe de pulpe artificielle à partir de cellules souches. Alors, est-ce que c'est des domaines que vous travaillez dans votre dans votre unité.
Tout à fait. Alors, on travaille sur ces fameuses biodents où, finalement, on essaie de créer les signaux moléculaires qui vont permettre la différenciation d'une biodent. Donc, il faut mettre en face un épithélium inducteur et un mésenchyme odontogène. Et en rétablissant ce dialogue épithélium-mésenchymateux, en prélevant ces différents types cellulaires et en rétablissant ce dialogue, on espère arriver à recréer cette fameuse biodent qu'après, on peut implanter soit dans la capsule rénale chez le petit animal, soit directement dans la cavité buccale, toujours chez le petit animal. Attention, on parle vraiment de recherche. Pourquoi pas chez le poulet? Aujourd'hui, on en implante chez le poulet. Et alors, en plus, comme le mésenchyme est rouge, les poulets ont des dents rouges. Donc, c'est tout à fait spectaculaire. Donc, oui, dans le domaine de la recherche, notre équipe, mais aussi des équipes japonaises, américaines, arrivent à rétablir ce dialogue épithélio-mésenchymateux qui va aboutir à la différenciation d'une nouvelle dent. Donc là, on est purement dans le domaine de la recherche.
Oui, j'ai vu que Hervé Lezot à Strasbourg avait travailler sur la constitution d'une dent à partir de cellules embryonnaires de souris.
On travaille avec Hervé, le chercheur du labo, professeur Polliard, travaille avec Hervé Lezot. Et alors, on passe notre temps, quand on a l'épithélium au bonjour, le mésenchyme au bonjour, on prend vite le train, on va réimplanter. Enfin, la recherche, c'est aussi une course passionnante entre différentes équipes.
Oui, parce que vous avez cité le Japon, là, Etsudo Okeda qui a créé un germe dentaire implanté chez le rongeur. Et 35 jours après, il y a la formation d'une dent.
Tout à fait.
Et on peut même aller plus vite si on l'implante, justement, comme vous l'avez cité tout à l'heure, si on implante dans le rein de l'animal, parce qu'il y a peut-être d'autres facteurs qui jouent, je ne sais pas exactement.
Ah, c'est une parfaite nourrice. La capsule rénale est un très beau, joli
modèle.
Et donc,
on a une croissance accélérée, et donc, on produit des dents, à tour de bras.
À tire l'arigot.
Alors, question, est-ce qu'il faut conserver la pulpe des dents de lait pour le futur? Quand vous ferez, non pas des dents, mais quand vous ferez de la greffe de pulpe?
Mon avis est que oui, parce que ce sont des cellules intéressantes, parce qu'elles sont d'origine crête neurale. Par contre, pas dans les conditions qui sont proposées actuellement, c'est-à-dire pas dans des banques privées.
BioEden, c'est quoi? C'est une banque privée?
Ça, ce sont des banques privées. Pour moi, l'avenir, c'est d'arriver à le faire via les CHU ou via, par exemple, l'établissement français du sang. Mais ce sera de toute façon, ça ne sera valable qu'à condition du moment où c'est fait avec une biobanque publique. Ben,
disons, ok, pour les conditions, je dirais, classiques à la française, on va dire. Mais sur le plan scientifique, est-ce que vous pensez qu'on aura intérêt dans les années qui viennent, et même les auditrices ou les auditeurs qui nous écoutent, et qui ont des enfants qui vont perdre donc une dent, de les conserver pour que leur pulpe soit utilisée plus tard? Parce qu'il y a déjà des boîtes qui ont commencé.
Oui, ben ça, je suis pas pour les boîtes, mais par contre, c'est une formidable réservoir de. Alors, soit on va pouvoir faire des IPS et finalement, on n'aura pas besoin
c'est-à-dire
de stocker
des cellules souches reprogrammées.
Soit ce sera plus difficile parce que finalement, ce seront des cellules qui auront été quand même pas mal trafiquées. Et c'est vrai que la dent est une formidable niche de cellules souches mésenchymateuses qui, en plus, très intéressant, ont pour origine les crêtes neurales. Ce qui veut dire les crêtes neurales, c'est tout ce qui fait les os du crâne, de la face, le cerveau, les neurones. Donc c'est très intéressant parce que elles ont des capacités que n'ont pas les cellules souches de la moelle osseuse qui, elles, sont d'origine du mésoderme. Donc c'est pas la même origine embryologique. Donc je pense qu'à terme, oui. Après, on a un deuxième shot, ce sont les dents de sagesse qui, finalement, avec l'évolution, on n'en a plus vraiment besoin, elles n'ont plus la place. Donc très souvent.
Puisque vous abordez la question, avant qu'on revienne sur la recherche, dents de sagesse, qu'est-ce que c'est que cette mode qui a été d'enlever systématiquement toutes les dents de sagesse? Est-ce que c'est réel? C'est intéressant?
Alors c'est très intéressant, c'est l'évolution. Avant, les hommes mangeaient des choses dures. On mastiquait, on mangeait du pain qui était avec de la farine qui était mal raffinée, donc on se cassait les dents. Enfin, on mangeait dur. Et il y avait beaucoup plus de croissance. Finalement, on avait des plus grandes gueules et puis probablement une musculature plus développée. Aujourd'hui, qu'est-ce que mangent nos adolescents?
J'ose pas le dire.
Voilà.
Parce que je veux pas faire de
alors,
pub.
Les mamans font très bien à manger, mais on mastique quand même beaucoup moins. Donc, finalement, ce phénomène de d'usure des dents se fait moins, ou du moins se fait plus tard pour d'autres raisons. Et donc, ces dents de sagesse, elles n'ont plus tellement la place de pousser, puis elles se retrouvent coincées derrière et elles poussent de travers et elles vont générer des infections récurrentes chez les grands adolescents qui généralement se réveillent toujours la veille des examens.
Bien sûr, c'est la période estivale qui profite. La dent minute, c'est quelque chose qui vous interroge sur le fait de faire très rapidement les empreintes nécessaires et la fabrication des dents.
Alors ça, c'est de la CFAO, c'est très, très high-tech.
Conception et fabrication assistée par ordinateur.
Voilà. Donc, le dentiste a une caméra à l'intérieur de la bouche du patient. Il enregistre la forme de la dent ou la forme de l'implant sur laquelle il veut réaliser une prothèse. C'est transmis directement au prothésiste via internet, l'email, et puis là le prothésiste possède le logiciel où il va pouvoir, donc là c'est la conception, où il va pouvoir dessiner la dent. Ensuite il y a la fabrication, il transmet cette information à une machine-outil qui a deux solutions, enfin il y en a deux types. Il y a un premier type qui travaille par soustraction, c'est-à-dire qu'on a un bloc de porcelaine, on a un bloc on a un bloc et on taille dans ce bloc, ou alors par addition, où on travaille par couches successives. Ensuite, tout ça est envoyé au chirurgien dentiste qui fait les essayages, ça repart chez le prothésiste et ensuite le patient a sa dent. Mais il y a une autre idée qui se développera certainement dans les années à venir, et j'en suis désolé pour les techniciens, c'est que certainement le dentiste sera amené à tout faire tout seul. Il aura la machine, il aura l'imprimante 3D et vous arriverez et une heure après vous aurez votre prothèse.
Oui, parce que la prothèse transitoire, le temps que elle soit fabriquée à l'extérieur, voire dans un
c'est
autre
compliqué.
Pays, et tout ça qui prend du temps, risque de disparaître avec cette haute technologie.
Oui, je pense. Enfin, c'est pas tout de suite, mais ça va. Je pense dans les 10 années à venir, on arrivera à aller très très vite. D'ailleurs, ça existe déjà.
Ça existe déjà.
Mais c'est à des coûts. Impensable.
D'où le terme de couronne minute qui est proposé par certains. Est-ce que vous pensez que à partir des cellules souches embryonnaires, on va pouvoir produire de la dentine ?
Ah bon, on en produit déjà, c'est pas difficile. Ça marche bien. Le challenge est plus de produire de l'émail. La dentine, c'est finalement de l'os qui n'est pas intégré au métabolisme phosphocalcique.
Et là, pour cela, vous utilisez des IPS qu'on appelle, c'est-à-dire des cellules, je dirais, embryonnaires reformées, reformatées, ou bien est-ce que vous avez des essais qui existent à partir des cellules embryonnaires souches?
On prend tout simplement des cellules souches mésenchymateuses prélevées dans des dents ou temporaires, donc dites adultes, ou des dents permanentes. Et puis on met ces cellules en culture, on les pousse vers une différenciation odontogénique où on les implante. Et là, elles font très gentiment, si on leur donne les bonnes conditions, de la dentine. Ça, c'est pas... Mais naturellement, les dentistes ont toujours fait la régénération. Quand vous avez un chirurgien dentiste dans les années 60 qui faisait un trou dans les dents, et puis finalement, il voyait un petit peu de pulpe, il mettait de l'hydroxyde de calcium dessus, et puis il refermait, et puis ça se régénérait, surtout si le sujet était jeune, il faisait de la régénération. Il stimulait les cellules souches sans le savoir. Alors aujourd'hui, on a des techniques qui sont beaucoup plus sophistiquées, avec des matériaux qui sont beaucoup plus intéressants, mais qui permettent de stimuler finalement ce pool de cellules souches, et puis elles vont gentiment venir se différencier, elles vont proliférer, se différencier, et refaire une couche de dentine. Je pense que le challenge, c'est plus de refaire de l'émail, parce qu'on n'a plus de cellules. Donc c'est plus difficile.
Les maladies génétiques et les dents, ça a l'air de rien, mais visiblement, il y a des gens qui, malheureusement, ont une agénésie dentaire, soit partielle, soit totale. Et vous faites des recherches dans ce domaine également ?
Nous sommes centre de référence maladies rares pour tout ce qui est maladie du métabolisme du phosphore et du calcium, c'est-à-dire tous les rachitismes génétiques, mais aussi tout un tas de pathologies, dont les ostéogénèses imparfaites. Donc les dents, c'est vraiment un lieu d'expression très fort de ces maladies. Soit en termes de nombre de dents, et effectivement, vous avez beaucoup de patients qui ont ce qu'on appelle des agénésies, qui peuvent être légères, soit
partielles, soit totales.
Partielles, soit totales, exactement.
Il manque quelques dents, après les dents de lait, ça ne repousse pas.
Et là, pour le coup, on peut demander, à partir de 6 dents absentes, à avoir des implants plus tard. Et là, c'est pris en charge. Donc, il faut absolument que ces patients soient bien diagnostiqués et vus dans des centres de référence pour avoir ce type de support. Et puis, vous avez des patients, en particulier les patients qui ont des pathologies du squelette, type ostéogenèse imparfaite, rachitisme génétique, qui ont des anomalies de structure très importantes des dents et qui ont un risque d'infection très importante, ou de parodontite. Par exemple, les patients qui ont une hypophosphatasie, des anomalies du squelette, ont des dents qui tombent naturellement, et ça, dès la denture de lait et très précocement. Donc vraiment, la dent est un lieu d'expression des maladies, ouais, des maladies rares.
Philippe Bouchard.
Faudrait pas qu'on dise toujours du mal des institutions. Il y a depuis maintenant 5 ans ou 6 ans, les enfants qui sont atteints de dysplasie ectodermique et qui n'ont plus de dents. Alors ça, c'est quelque chose de dramatique. Parce que jusqu'à présent, ces enfants, on ne pouvait pas placer des implants.
Maladie génétique qui aboutit à la
perte, quelquefois, de la totalité des dents. Mais imaginez un enfant dans une école, dans la cour d'une école, il a 7 ans, 8 ans, il n'a aucune dent à l'intérieur de la bouche et on lui a mis un petit appareil. Et le petit appareil tombe. Vous imaginez les petits camarades ? Donc là, on a réussi... C'est un impact psychologique terrible. On a réussi à obtenir chez ces enfants et après à l'âge adulte, justement, le remboursement d'implants pour pouvoir faire tenir la prothèse.
Juste un mot sur l'hygiène. Est-ce que le fluor, qui était la grande panacée d'il y a une quinzaine d'années, même in utero, qu'il fallait prendre même in utero, est quelque chose qu'il faut poursuivre, arrêter, modérer?
Alors on a beaucoup travaillé avec pour les recommandations nationales, et puis la HAS a également travaillé. Je pense qu'aujourd'hui, quand on connaît la littérature dans les pays industrialisés, on sait que ce qui apporte le mieux le fluor, c'est le dentifrice fluoré. Et je pense qu'il faut vraiment donner en quantité très surveillée, pas plus d'un petit poids, mais à partir de 2 ans, une fois par jour, et puis en grandissant, en adaptant la dose dans le dentifrice, des dentifrices fluorés aux enfants. Et ça, c'est super important, parce qu'on sait ce qui marche le mieux dans la prévention de la carie dentaire, c'est la maturation post-éruptive de l'émail. Donc ça, c'est capital. Il faut donner aux enfants un dentifrice adapté à leur âge et à l'évolution de leurs dents. Donc, par exemple, avant 6 ans, avant l'arrivée des premières molaires permanentes, on donne un dentifrice à 500 ppm. Dans certains pays, on donne un peu plus, mais 500 ppm, ça va très bien.
C'est quoi ?
Alors, c'est...
Parti pour 1000.
Non, vous donnez un nom.
500 ppm.
Bon, parti pour 1000.
PPM. Ah, particule. Oui, c'est le dosage, excusez-moi. On augmente le nombre de ppm, c'est écrit sur tous les tubes de dentifrice, mais ça s'appelle les dentifrices d'anglais. Et puis dès que les premières molaires permanentes font leur arrivée, eh bien on passe tout de suite à 1000, 1500 ppm, les dentifrices dents permanentes. Et puis à partir de 10 ans, on donne des dentifrices à 1500 ppm.
Mais on arrête le fluor in utero.
On arrête complètement.
Mais oui, mais vous savez que pendant un temps, on a été soumis à pression.
Les recommandations ont dit qu'on pouvait, chez les 30% d'enfants qui continuent à être à très haut risque de carie, on peut continuer la supplémentation orale. Personnellement, je pense que la supplémentation, le traitement topique suffit largement. Alors, par contre, attention, la fluorose osseuse, on en a parlé récemment, c'est pas avec le dentifrice que ça va arriver. Sauf.
C'est quand il y en a trop,
Sauf si le gamin a le tube de dentifrice qui a généralement le goût de bubblegum à disposition et qu'il en grignote toute la journée. Donc le dentifrice, c'est 2 petits pois par jour, pas plus.
Oui, il faut juste préciser qu'aujourd'hui, tous les dentifrices contiennent du fluor.
Très bien, on regardera avec attention
les BPM.
La petite notice. Voilà, pour terminer, disons que la petite souris, elle existe toujours quand même. Quand on perd une dent de lait, il faut bien compenser la perte.
Alors, les petits-enfants, moi, dans le cadre du centre de maladies rares, on étudie la structure des dents au laboratoire, la structure des dents de ces enfants. On a tout un tas de scanners et de techniques. Et alors, c'est toujours une grande difficulté de demander, très souvent d'ailleurs, je les garde pas, parce que ça me fend le cœur de voir les enfants partir sans leurs dents de lait. Donc oui, les enfants croient toujours à la petite souris. Il faut toujours mettre le petit cadeau sous l'oreiller.
Très bien, merci de vos interventions à tous les deux. Cette émission de René Friedman a été préparée avec la collaboration de Catherine Donnet, réalisé par Dany Journeau avec Anthony Thomassin à la prise de son. Révolution médicale est une émission donc de la tranche Culture Science de France Culture qui sévit tous les jours de 16h à 17h. Cette émission, vous pourrez la regarder sur le site internet de franceculture.fr ou sur le site de notre partenaire, lequotidiendumédecin.fr. Demain, vous avez rendez-vous avec la Dream Team. Comme je le dis, elle continue et va vous séduire encore pendant quelques temps. À bientôt.